pour mieux comprendre l'économie. Bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue à votre magazine audio consacré à la saine planification financière personnelle et d'affaires. Aujourd'hui, notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines de l'argent et des monnaies alternatives. Mais qu'est-ce qu'on utilisait avant les billets de banque et les pièces de monnaie? Isabelle nous le dévoile. Notre invitée est la journaliste de finances personnelles Marie-Ève Fournier de La Presse. Elle revient sur la récente enquête de la CBC concernant la qualité des conseils financiers obtenus en succursale bancaire par des clients fantômes envoyés sur le terrain par l'équipe de l'émission Marketplace. Notre question du beau-frère de cette semaine provient d'Annette de Berthier. Son beau-frère se demande pourquoi elle ne place pas une portion de ses fonds de retraite en Bitcoin. Aussi, nous soulignons le départ d'un des pères de la finance comportementale, le psychologue et économiste Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel de l'économie en 2002, est décédé. Il fut l'un des premiers à comprendre et à prouver que les comportements et les émotions d'un investisseur expliquent davantage son rendement à long terme que l'identité des titres boursiers, les frais financiers et l'impôt. Le balado Le Planif débute à l'instant.
À travers l'histoire, l'humanité ne s'est pas toujours servie de pièces métalliques et de billets de banque en guise de monnaie. Certaines alternatives fascinantes ont de quoi vous surprendre. Le sel. Oui, vous avez bien entendu. Le sel était autrefois si précieux qu'il servait de monnaie. Le mot « salaire » vient même du latin « salarium », qui était une allocation de sel donnée aux soldats romains pour les rémunérer. Les coquillages, particulièrement les coris, ces petits coquillages, étaient utilisés comme monnaie en Afrique, en Asie et même en Amérique. Ils étaient légers, durables et rares, ce qui en faisait une monnaie idéale pour le commerce à longue distance. Dans l'Empire aztèque, les fèves de cacao étaient si précieuses qu'elles servaient de monnaie. Imaginez payer votre dîner avec quelques fèves de chocolat. Les pierres de rail qu'on retrouve sur l'île de Yap, dans le Pacifique, sont d'énormes disques de pierre calcaire. Malgré que certains mesurent jusqu'à 4 mètres de diamètre, ils étaient utilisés comme monnaie. Ces pierres étaient si lourdes qu'elles n'étaient pas déplacées. Au lieu de cela, la propriété était simplement transférée oralement. Au début de la colonie de la Virginie aux États-Unis, le tabac était si précieux qu'il servait de monnaie. Les feuilles étaient soigneusement séchées et enroulées en boules de tabac qui étaient ensuite échangées contre des biens et des services. Chacune de ces monnaies alternatives nous rappelle que la valeur est souvent une construction sociale changeante selon le temps et le lieu. Alors la prochaine fois que vous regarderez votre tablette de chocolat ou un pot de sel, pensez à leur passé monétaire fascinant.
En ouverture du balado Le Planif, j'aimerais rendre hommage à Daniel Kahneman, qui a fait énormément pour la finance comportementale. En fait, c'est un des pères de la finance comportementale. Il a changé à jamais la psychologie, l'économie, l'investissement. Il est décédé hier, mercredi, le 27 mars, à l'âge de 90 ans. Alors, merci pour tout, Daniel Kahneman. Et on peut se souvenir de lui en 10 citations. D'abord, la psychologie en finance, c'est peut-être pas courant, mais ça fait quand même plusieurs années qu'on analyse justement les comportements psychologiques et finalement la bourse bouge davantage à partir de perceptions qu'à partir de faits. Et pour citer Kahneman, voici 10 superbes citations de ce qu'il pensait lorsqu'il a été invité à commenter parfois l'actualité, parfois les mouvements brusques de la bourse. Rien dans la vie n'est aussi important ce que vous pensez lorsque vous réfléchissez. Alors en réfléchissant, vous faites un geste qui finalement devient quelque chose de plus abouti qu'une simple petite pensée. Alors dans la vie, l'important, c'est de penser, c'est réfléchir. Nous sommes aveugles à notre aveuglement. Nous avons très peu d'idées du peu que nous savons et nous ne sommes pas conçus pour savoir à quel point nous en savons peu. C'est assez compliqué comme phrase, mais ça nous montre à quel point finalement on en connaît peu et des fois, ça nous conforte de peu en savoir. Mais en finance, c'est le contraire. Plus on en sait, moins on prend de risques. Le savoir devient du pouvoir. Nous sommes généralement trop confiants dans nos opinions, nos impressions et nos jugements. Et si nous lisons davantage, plus on s'instruit, on va éviter des raccourcis de l'esprit. Notre état émotionnel a donc beaucoup à voir avec ce à quoi on pense et ce à quoi on prête attention. Alors soyons attentifs à notre état émotionnel, puisque ça perturbe finalement notre pensée et aussi notre cadre de décision. Il y a beaucoup de hasard dans les décisions que prennent des gens et on aime comprendre, on aime penser qu'on contrôle, mais il y a beaucoup de hasard qui intervient. Les économistes réfléchissent à ce que les gens devraient faire, mais les psychologues observent ce qu'ils font réellement. Je dis souvent à des proches de mon entourage, quand on va parler d'amour, d'admiration, d'amitié, les intentions, ce n'est rien. Les gestes, ça compte. En finance aussi. Ce que vous voyez est tout ce qu'il y a, plutôt que de prêter des intentions. Ça vient aussi de Kahneman, ce que je viens de lire. Si vous souhaitez paraître crédible et intelligent, n'utilisez pas un langage complexe là où un langage plus simple ferait l'affaire. J'aime penser que ça me décrit parce que j'aime beaucoup vulgariser, simplifier, puis je crois qu'il y a de l'abus de jargon, surtout en finance où on tente d'étaler des connaissances pour mieux enfiropper les gens en garnissant son discours de beaux mots ou de théories financières. Un moyen fiable de faire croire aux mensonges est la répétition fréquente, car la familiarité ne se distingue pas facilement de la vérité. La familiarité ne se distingue pas facilement de la vérité. Là, on comprend que certains politiciens font usage de mensonges à répétition pour qu'on leur croie, mais ça demeure des mensonges. En finance aussi, on répète des mensonges. Le mensonge le plus flagrant en carrière pour moi, c'est que les petits frais financiers garantissent l'enrichissement à long terme. C'est inexact. Autant pour les fonds, les FNB que les CPG, le résultat net de frais et d'impôts est beaucoup plus important en finance. Alors choisir vos investissements uniquement sur la base des frais réservera toujours de mauvaises surprises. Des conséquences fâcheuses vous attendent dans le détour. Elles pourraient être fiscales, de liquidité ou carrément au niveau de la prise de risque. C'est une chose merveilleuse d'être optimiste. Ça vous garde en bonne santé et ça vous garde résilient. C'est le mot de la fin, c'est la citation de la fin et c'est de ça que je vais me rappeler du grand Daniel Kahneman qui est décédé en 2024 à l'âge de 90 ans, le père de la psychologie de l'investissement.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
La journaliste de la presse, Marie-Ève Fournier, notre invitée. Rebonjour, Marie-Ève.
Bonjour, Fabien.
Une autre participation au balado Le Planif. Et cette fois, c'est avec une enquête qui révèle que de la vente peut être déguisée en conseil financier. Un papier que tu as publié dans la presse Plus le 23 mars dernier. Et cette histoire-là va certainement faire jaser. Marie-Ève, raconte-nous un peu le fond de l'histoire.
Mais en fait, il faut donner le crédit à l'émission Marketplace de la CBC qui a réalisé une enquête qui a dû prendre plusieurs semaines parce qu'on s'est rendu là, dans des succursales des 5 grandes banques canadiennes, soit la Banque Royale, la BMO, la TD, Scotia et la CIBC, dans des succursales à la fois à Toronto et Vancouver avec des caméras cachées pour voir un peu quel conseil on aurait. Donc, dans un des cas, par exemple, il y a une dame qui dit qu'elle a reçu 50 000 $ en héritage et demande quoi faire avec. Elle a près de 20 000 $ sur sa carte de crédit. Et là, le but, c'est de voir est-ce qu'on va lui conseiller de commencer par rembourser sa carte de crédit à 20 % d'intérêt. Et la réponse, ben, malheureusement, c'est non. Aucun conseiller financier de ces grandes banques ne lui suggère de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de commencer par rembourser sa dette, étant donné le taux d'intérêt élevé. On lui propose plutôt d'investir la somme dans des fonds communs Et il y a même un des conseillers qui lui dit qu'elle aura au minimum 10 % d'intérêt par année avec ses fonds communs. Donc, qui est un autre très mauvais. Ben, en fait, c'est pire qu'un mauvais conseil, là. C'est carrément interdit de promettre des rendements minimums sur ce type de placement. Et donc, il y a plusieurs informations comme ça dans le reportage. Là, on voit toutes sortes de situations où les conseils sont soit mauvais, soit carrément illégaux parce qu'ils placent les intérêts de la banque bien avant l'intérêt du consommateur.
Mm-hmm. Et dans ton cas, tu as ajouté dans ton papier la réalité québécoise.
Oui, parce que je voulais voir un peu, bon, ça, c'est des exemples qui ont été pris ou trouvés, en tout cas à Toronto, à Vancouver, mais je me disais qu'évidemment, les banques, bon, ont des succursales dans toutes les provinces et que c'est certainement pas différent au Québec. Donc, je n'ai pas recommencé l'enquête. Par contre, j'avais un courriel qui était atterri dans ma boîte il y a une semaine tout au plus d'un homme qui me racontait une expérience qu'il a vécue chez Desjardins. Il s'est rendu donc à la Caisse populaire avec son épouse parce qu'il avait vendu un truc et il avait 25 000 $ qu'il voulait mettre dans le REER de sa femme. Et sa femme, ne s'intéresse pas vraiment aux choses financières, pose pas vraiment de questions. Alors lui, il en a profité. Lui, ça l'intéresse beaucoup. Donc, tant qu'elle est dans le bureau de Desjardins avec son épouse, il en a profité pour regarder peut-être plus attentivement ce qu'elle détenait comme placement. Et il a posé des questions, notamment sur les rendements des fonds communs. Et c'est ainsi qu'il a découvert que le rendement moyen des 5 dernières années était d'à peu près 2 % alors que les frais de gestion du fonds frôlaient les 2,3 %. Donc, il était très fâché de constater que la banque, la caisse dans ce cas-ci, et les gestionnaires avaient probablement fait beaucoup plus d'argent que son épouse. Et il a demandé au conseiller financier devant lui s'il n'y avait pas mieux à faire pour aider son épouse là, qui avait à peu près 150 000 $ de fonds communs dans ses REER. Et c'est lui finalement qui a suggéré peut-être l'achat d'un CPG à 5 % d'intérêt. Et il était très outré dans le fond que, un, il n'ait su le rendement et les frais de gestion des fonds communs que parce qu'il avait posé la question. Donc, il déplorait beaucoup le manque de proactivité de Desjardins et le fait que le CPG n'ait jamais été proposé à sa femme. Alors, je trouve ça assez déplorable, moi aussi, là, que rien n'ait été fait un peu comme par défaut, peut-être pour améliorer ses rendements, les rendements de ses REER et améliorer sa retraite par le fait même.
Mm-hmm. Il y a l'Association des banquiers canadiens qui a réagi au reportage, puis on dit que non, c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie. T'en as mentionné dans un paragraphe, justement une citation, là.
L'Association des banquiers canadiens qui dit que les expériences et vécues et ce qu'on observe dans le reportage, ce n'est pas fidèle à la réalité. Bon, moi, personnellement, je me demande comment ils peuvent en être si sûrs et quel genre d'enquête ils font pour être certains que les banques ne proposent pas ou ne forcent pas. Hein. C'est beaucoup de la pression qui est mise sur les employés, dans le fond, pour atteindre des quotas, pour faire des ventes. Personnellement, je ne veux pas mettre là tous les employés des banques dans le même bateau. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut comprendre aussi dans quelle situation ces personnes-là se trouvent un peu entre l'arbre et l'écorce. Hein. Ils ont beaucoup de pression pour garder leur emploi. Ils veulent garder leur travail, veulent garder leur emploi, veulent accéder à des promotions, veulent probablement augmenter leur salaire comme tout le monde dans la vie. Et comment y arriver? Bien, c'est en atteignant des quotas de vente, donc en ouvrant des marge de crédit, en vendant des cartes de crédit, en vendant toutes sortes d'assurances qui viennent avec les prêts hypothécaires. Donc, c'est difficile aussi pour les employés de banque, je peux comprendre, de faire plaisir à la fois à leur patron et à la fois aux clients. C'est vraiment pas une situation facile, puis je pense qu'il est là le nœud du problème et c'est ce qui doit être corrigé, là.
Ah oui, Mais il y a quelques années, Marie-Ève, on s'en parlait plutôt au téléphone, il y a l'AMF avec la Commission de valeurs mobilières de l'Ontario et les organismes, les autorités de marché à travers le Canada qui tablaient sur une réforme de la distribution des produits et services. Et on avait recommandé fortement que les gens qui sont justement en succursale et qui vendent des produits financiers qui sont restreints à la bannière et qui ont des quotas, qui ont des bonis, qui ont des iPads en cadeau, des voyages, ceux-là, dans les faits, ce sont des représentants des ventes. Ça a été la recommandation de dire, quand on est conseiller, c'est parce qu'on offre du conseil, et si on n'est pas conseiller, à ce moment-là, appelez-vous comme vous êtes, c'est-à-dire des représentants des ventes. Est-ce que tu juges que c'est le genre de recommandation qui, aujourd'hui, faudrait peut-être ramener en évidence dans l'actualité?
Mais je pense que ça pourrait, oui, aider tout le monde. Ça pourrait aider à la fois les employés qui, il y en a plusieurs hein, qui ne se sentent pas tellement à l'aise dans ce rôle. J'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui ont dit « j'ai carrément quitté le milieu bancaire parce que je ne pouvais pas être 100 % honnête avec les clients, j'avais de la pression des patrons et cette pression-là semble énorme. » On le voit dans le reportage, hein. Il y a quelqu'un qui dit « à chaque mois, là, on nous dit qui ont été les meilleurs vendeurs, on met nos noms en ordre et puis si on veut faire un voyage, il faut avoir vendu. » Donc, on fait tout pour encourager les employés des banques là, à vendre. Donc, aussi bien que ce soit clair, quand on travaille pour une banque, on est un vendeur. Quand on se, comme client, on se pointe dans une banque, on a affaire à un vendeur. Je pense que ça aurait l'avantage de la transparence. Pour moi, la transparence, l'intégrité, c'est des valeurs clés. Donc, au moins, on saurait à quoi s'en tenir. Je pense que ça peut juste aider tout le monde parce qu'on... C'est, la littératie financière n'est pas nécessairement à un niveau assez élevé. Donc, malheureusement, beaucoup de personnes qui se pointent dans les banques ne sont pas capables nécessairement, n'ont pas le niveau de littératie financière pour détecter le mauvais conseil parmi les bons conseils et vont se fier aveuglément à ce qu'on leur dit. Donc, il y a quand même un danger parce que là, on parle de l'argent, de l'épargne, de la retraite, de l'avenir. Donc, c'est quand même des enjeux, des conséquences graves, là.
D'autant plus qu'il y a eu plein de réformes dans le secteur financier. Je pense à une, entre autres, qui est sur le fait qu'on doit bien connaître son produit. Il y a eu une première réforme où c'était bien connaître son client. Et c'est sûr que l'endettement, c'est une priorité. On commence pas à faire des investissements qui ont la chance de faire, je sais pas, 7, 8 % de rendement, alors qu'on a une dette à 20, 22, là. Mais ça, c'est la base. Et l'aboutissement, il y a quelques années, c'était de bien connaître son produit et de préparer une analyse factuelle sur les bénéfices et aussi les désagréments de tel choix. Puis si on a 2-3 colonnes où on compare des produits financiers, évidemment, c'est genre, je crois, d'analyse que le public doit avoir absolument. Pourquoi vous nous recommandez le fameux fonds de votre banque? Comment il se comporte par rapport aux autres et qu'en est-il de ses frais? Mais ça, au départ, ça devait être un document qu'on remettait aux clients. Peut-être des pressions de lobby, je ne le sais pas, mais je le soupçonne. Ce qui fait que ce document-là est conservé en banque, dans les archives du conseiller. Il doit prouver qu'il a fait le travail, mais ce n'est pas exigé. C'est un peu bizarre quand même.
Effectivement, il y a tout une réglementation à améliorer. Je pense qu'il y a comme un travail à faire. Du côté des banques, bon, c'est sûr, il manque de personnel. Je pense que les employés aussi manquent de temps. On ne peut pas passer là, 2 heures avec quelqu'un pour lui expliquer comment fonctionne le CELIAP. Donc, les gens ont de plus en plus de besoins pour se faire expliquer les choses parce que, bon, avant, les gens avaient un régime à prestations déterminées puis leur retraite, il n'y avait pas de problème.
Oui, c'était simple.
C'était simple. Aujourd'hui, on peut avoir 3-4 régimes de retraite. On peut avoir un CRI. On peut avoir un CELIAP, un CELI, un REER, avoir RAPE. Je veux dire,
Chose. Des actifs à l'étranger, en plus, qui viennent complexifier davantage la situation.
Marie-Ève, oui, donc, c'est beaucoup plus compliqué. On a besoin de plus de conseils, mais ouais. Les gens qui travaillent dans les banques ont moins de temps, ils sont moins nombreux. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
J'ai l'impression qu'il y a une peur du jugement ou une peur du préjugé parce que si la personne s'appelle comme elle est, c'est-à-dire vendeur, vendeuse de produits financiers, ben, il va y avoir peut-être une hésitation de la part du consommateur. Ça sera sain, mais en même temps, si je me présente dans un magasin d'électroménager et qu'il y a un vendeur, moi, je le juge pas. C'est son métier, je le respecte. Mais comme consommateur, par exemple, je vais poser pas mal plus de questions que s'il s'appelle conseiller. S'il n'offre que la marque de, je sais pas, dans le temps, c'était Sears, on peut savoir que je vais être certainement incité à acheter une machine Sears. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le réflexe parce qu'il a le titre de représentant en épargne collective, le titre de planificateur financier. On se dit, il est obligé de favoriser mon intérêt, mais définitivement, ce genre d'enquête-là révèle que non.
Mais le problème aussi, Fabien, avec le titre de vendeur, c'est que si on s'assoit devant un vendeur à la banque pour acheter des choses, mais qui va nous donner un conseil en amont? Qui va nous dire quoi acheter? Donc, il est là le problème aussi. Si les gens ne font que vendre et s'ils se présentent comme des vendeurs, ben, il va quand même falloir que les gens trouvent le conseil quelque part. Ouais. Et là, le conseil, il est extrêmement difficile à trouver. Le conseil impartial de la personne qui n'a rien à nous vendre, on le trouve où? Est-ce qu'on est prêt à payer pour? Est-ce qu'il y a des planificateurs financiers qui travaillent à l'heure? Moi, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Qui puis-je contacter pour me vendre des conseils financiers impartiaux, complètement indépendants? Et pour vrai, j'arrive difficilement à répondre à ces personnes parce que je cherche les planificateurs financiers qui facturent leurs services à l'heure. Et je ne sais pas où ils se cachent, mais ils sont très, très rares.
Oui, ils sont rares, c'est vrai. Sur une dizaine de milliers de planificateurs au Québec, je soupçonne qu'il y a peut-être 10-15% qui peuvent travailler comme ça. Et parfois, ils ont double emploi. Ils sont peut-être comptables professionnels. Ils font davantage des déclarations d'impôts d'individus ou encore de corporations. Mais tu as raison, c'est un problème. Et du côté, donc, des différentes recommandations en ce qui concerne la rémunération, quand elle est transparente et reliée, par exemple, à des actifs, qu'est-ce qu'on pourrait recommander peut-être aux gens? C'est si vous posez la question à votre conseiller planificateur, d'accord, je vous fais confiance, la chimie passe, mais je veux que dans mon portefeuille, on ne trouve que des produits d'institutions ou externes à votre organisation. Je pense que c'est un moyen de révéler un peu si un lapin est caché quelque part derrière un chapeau.
Oui, et peut-être là, quand on se magasine quelqu'un hein, pour prendre soin de nos finances, lui poser des questions, par exemple, ce qu'il peut penser des fonds de travailleurs. Est-ce que je devrais investir une bonne partie de mon salaire dans un fonds de travailleurs? Donc, si ça permet un peu ce genre de questions, de tester si le planificateur financier ou le gestionnaire a vraiment nos intérêts à cœur, parce qu'on sait qu'il y a des crédits d'impôt quand même importants qui viennent avec ces genres de fonds. Donc, la réponse peut nous donner peut-être des indications là, sur
effectivement,
la personne.
Ouais. Ah, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Mais qu'est-ce que tu crois qui peut arriver? Parce que tu as quand même plusieurs années d'expérience en finances personnelles comme journaliste. Qu'est-ce que tu crois pourra être la réaction des différents organismes qui supervisent le conseil, que ce soit la loi des banques, l'AMF, la CVMO en Ontario, la Chambre de sécurité financière? Parce que de ce qui est étonnant, là, c'est que l'enquête de la journaliste Erika Johnson, c'est une répétition, hein, c'est la version 2, c'est comme Dune 2. Là. On est à la même enquête qui s'est prolongée 7 ans plus tard avec les mêmes résultats.
Malheureusement, je ne vois pas pourquoi ça changerait et comment ça pourrait changer. Je sais que c'est un peu pessimiste, là, mais pour les raisons que tu évoques, il y a 7 ans, c'était la même chose. Tu as toi-même publié un livre, Fabien, sur le sujet et il n'y a rien qui bouge jamais. Les banques, c'est quand même des entreprises à but lucratif. Est-ce que c'est normal qu'elles veulent vendre des produits? Oui. Comment on va faire pour s'assurer de la transparence ou de l'éthique de ses membres? C'est vraiment difficile. Je ne sais pas qui pourrait prendre le ballon puis vraiment porter cette cause, mais quand on voit la ministre Chrystia Freeland qui fuit l'équipe de la CBC,
Ah,
elle
c'est fou
court.
ça, c'est fou ça. Désolant.
Pour vrai, ça m'enlève tout espoir parce que si la ministre responsable des banques refuse de rencontrer la CBC sur un sujet aussi capital pour les consommateurs, pour tous les Canadiens, je ne sais pas qui va faire, qui va prendre le ballon et va régler le problème, là.
Ouais.
Je ne vois pas qui va le faire ni quand.
Ben heureusement, il y a des journalistes qui soulèvent ces questions-là ou encore qui vont creuser davantage, comme tu as fait, Marie-Ève. Merci, tu fais vraiment œuvre utile. Je crois que ça sensibilise les gens encore sur un phénomène qui est insoupçonné. C'est que ce n'est pas du conseil qu'on va chercher en succursale. On va chercher souvent du dépannage. Et si vous cherchez du conseil, il faut faire ses devoirs, il faut s'intéresser, faut poser des questions et il faut lire et regarder des contreparties à droite, à gauche pour trouver quelque chose qui nous convient. Mais définitivement, le consommateur de services financiers a intérêt à s'intéresser à ces choses.
Oui, tout intérêt. Et puis, c'est de plus en plus compliqué. Les gens ont de moins en moins de temps. Donc, c'est vraiment un problème. Et c'est souvent un problème pour la retraite. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que tout est plus compliqué. Et les gens ont de moins en moins là, des régimes de retraite payants à prestations déterminées avec des rentes garanties. Donc, il faut épargner, il faut comprendre un peu les produits financiers, il faut se préparer soi-même à sa retraite. Donc, ça demande beaucoup plus de connaissances qu'à une autre époque. Et le secteur financier s'est complexifié aussi. Il y a de plus en plus de produits. Alors, dans un monde plus complexe où on a moins de temps et qu'on peut moins compter sur un régime de retraite d'employeur, là, vraiment, là, c'est l'équation parfaite pour une retraite peut-être beaucoup moins confortable qu'on l'espère.
Oui. En passant, on peut rappeler aux gens qu'on peut lire tes publications, tes chroniques. C'est le dimanche dans la Presse Plus, mais ça arrive dans la semaine aussi qu'on peut te lire. Mais aussi, maintenant, c'est nouveau, les gens qui ont un ordinateur Mac peuvent télécharger l'application un peu comme une tablette et lire exactement avec le même confort, avec la même interface que sur la tablette iPad ou Samsung. Alors, merci Marie-Ève pour cette petite visite au Balado Le Planif.
Planifiez mieux avec le Balado Le Planif.
La question du fatigant de beau-frère d'Annette de Berthier. Ben, c'est elle qui le dit, c'est comme ça qu'elle l'a identifié. Elle demande pourquoi elle s'entête, en fait, c'est son beau-frère qui demande pourquoi elle s'entête à ne pas vouloir acheter des bitcoins pour financer sa retraite. Après tout, c'est l'actif le plus payant de 2024 avec une croissance de plus de 60% depuis le début de l'année. Annette, vous pouvez répondre ceci à votre beau-frère, qu'il peut bien investir sa propre retraite, celle de son épouse, de ses voisins, de ses enfants avec les REE dans ses cryptos, si ça lui plaît. Mais ces efforts de conversion, moi, quand on presse comme ça, que ce soit pour des cryptos ou n'importe quoi d'autre, ça rappelle certaines sectes. Je prône personnellement la laïcité financière, c'est-à-dire conservez donc vos croyances à domicile et laissez donc votre entourage décider selon leur propre capacité à tolérer les risques, la volatilité. Non, mais on n'a pas à y gagner parce que le voisin prend le même placement que nous, là. Personne n'est obligé d'avoir des capitaux hautement spéculatifs dans ses placements. Quant à la prétention voulant que le Bitcoin est l'actif le plus performant de 2024, c'est faux. C'est vrai que plus de 60%, c'est un rendement très élevé pour un trimestre, mais c'est pas le plus élevé. Fannie Mae, qui est garantie des prêts hypothécaires aux États-Unis, a rapporté depuis le début de l'année près de 80%. C'est encore mieux que le Bitcoin, mais c'est une société qui possède des actifs substantiels qui reposent sur du tangible, soit sur des résidences, sur des maisons et des milliers, voire des millions de maisons. 60 % 80, c'est bien beau, mais ça n'accote pas la performance de la tonne de cacao. Oui, le vulgaire cacao avec lequel on fait du chocolat. Dans les trois derniers mois, le prix de la tonne de cacao a bondi de manière spectaculaire, puis a touché les 10 000 $. Ça représente un gain de 134 %. Et c'est pas mal mieux que l'immobilier et le Bitcoin finalement. Alors, pour taquiner votre beau-frère Annette, vous pouvez très bien lui donner un petit Ferrero Rocher de ma part en lui disant « Ben voici ce que je mets dans mes CELI cette année ». Voilà, ça conclut pour le balado Le Planif pour cette édition. Merci notre invitée, la journaliste Marie-Ève Fournier, pour sa collaboration pour, entre autres, cette chronique dans le journal La Presse Plus sur les conseillers un peu trop vendeurs à son goût. J'ai bien l'impression qu'il y aura pas mal de suites à ce type de reportage. Alors, merci de votre présence. Le balado leplanif.com, c'est l'adresse pour pouvoir voir les archives, entendre les archives de votre balado. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Ici Fabien Major. À bientôt.